Il est 8h sur France Culture, c'est l'heure du journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Un collaborateur d'Emmanuel Macron a été filmé en train de violenter des manifestants le 1er mai dernier. On apprenait hier soir son identité et sa sanction. 15 jours de mise à pied par l'Élysée. C'est trop peu, répondent les députés de tous bords. Nous reviendrons sur cette affaire en début de journal.
Nous découvrirons ensuite les pistes pour réformer l'audiovisuel public. Les arbitrages budgétaires doivent être dévoilés aujourd'hui entre économie et numérisation.
Comment limiter l'augmentation des prix des locations à Paris? Un rapport semble alarmant et les associations préviennent. Ça ne fait que commencer, nous verrons cela.
La tension toujours entre Israël et la bande de Gaza sur fond de cerfs-volants enflammés. Cette tension pourrait augmenter en cette fin de semaine.
Et puis le Nicaragua célèbre aujourd'hui les 39 ans de la révolution sandiniste. Face à la répression sanglante du pouvoir en place, nous essaierons de comprendre ce qu'il reste de cette révolution. Quand un collaborateur à la présidence, à l'Élysée, est autorisé à participer à une intervention de police sur une manifestation et que tout dérape. Le journal Le Monde liait hier soir une vidéo à un nom. Un proche collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de violenter deux manifestants. C'était le 1er mai dernier à Paris dans le quartier latin. Il s'agit d'Alexandre Benalla, chargé de mission auprès du chef de cabinet du président, portant ce jour-là un casque de CRS sur la tête. Jérémy Ferrer-Bartomeu est chercheur en histoire à l'université de Nanterre. Il était le 1er mai place de la Contrescarpe quand les faits se sont déroulés. Et au micro de Mélanie Delaunay, il raconte.
Un groupe de deux jeunes personnes, une fille et un garçon, ont été très très violemment saisis par une personne casquée que nous on avait évidemment identifié comme un policier en civil, un policier des brigades anticriminalité, comme ça arrive souvent en manifestation, alors que quelques secondes avant, ces deux jeunes ne manifestaient absolument pas d'hostilité, ne criaient pas. Et surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils n'étaient pas vêtus comme les manifestants de la gauche radicale habituelle, ceux qui sont habillés en noir, qui ont des lunettes de protection contre les gaz. Non, ils étaient vraiment des gens qui passaient par là. On n'a pas compris ce qui se passait et on a observé la scène de ce garçon se faisant étrangler, traîner au sol, comme la vidéo le montre très bien, de cette jeune fille se faisant étrangler également, amenée à l'extérieur du dispositif. Et on n'a vraiment pas compris ce qui se passait. On a été vraiment choqués par cette violence, par cette irruption de violence. On s'est dit, c'est pas normal, il y a quelque chose de pas normal qui se passe.
Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre!
La tête de cet homme, l'Élysée donc la connaît. Alexandre Benalla a été responsable de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne, puis recruté comme chargé de mission. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron avoue au quotidien Le Monde qu'il a vu cette vidéo en mai dernier et sur demande du président, il a choisi une sanction, 15 jours de mise à pied ainsi qu'une rétrogradation opérationnelle. Il ne sort donc plus du château mais conserve son poste. Tout cela ne convainc pas les députés interrogés par Estelle Schmitt dans les couloirs de l'Assemblée hier.
15 jours de mise à pied pour des violences physiques, la sanction n'est vraiment pas assez sévère, selon Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime.
Il y a des mômes de banlieue qui sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, qui payent plus cher que ça. La République, si elle n'applique pas les mêmes peines, en fonction de savoir si on est près du prince ou loin du prince, c'est pas la République.
Hugo Bernalicis, élu de la France Insoumise dans le Nord, va plus loin.
Maintenant que tout ça est connu et reconnu, c'est pas juste une sanction administrative de mise à pied, on est dans le champ pénal.
D'autres dans l'opposition dénoncent la gestion de l'affaire, le pouvoir a tenté de la dissimuler au public, assure le député Les Républicains de Moselle, Fabien Di Filippo.
Où est la République exemplaire que prônait le président Emmanuel Macron, d'une part sur le comportement et d'autre part sur la sanction qui s'est faite en interne, en catimini, et on a essayé d'un peu étouffer l'affaire.
Une affaire qui pourrait coûter cher à Emmanuel Macron, estime le socialiste David Habib, député des Pyrénées-Atlantiques.
On vient de sortir d'un épisode magnifique autour de la Coupe du Monde, d'un certain nombre de valeurs, de messages envoyés à la jeunesse, vous imaginez ce que ça représente ? C'est très Trump, cette affaire. On l'aurait vu aux États-Unis, j'aurais été presque préparé à l'idée. Là, je suis profondément choqué. C'est pas mon pays, c'est pas la France que j'aime.
Les élus de la majorité, eux, rasent les murs. Les mots me manquent, explique hors micro une députée visiblement embarrassée.
Les députés qui examinent en ce moment dans l'hémicycle de l'Assemblée la réforme constitutionnelle, ils ont voté cette nuit l'inscription du service national dans la Constitution. Si la loi passe ainsi, il sera obligatoire pour tous les jeunes d'environ 16 ans et devra durer un mois. Les modalités seront connues prochainement. Les députés ont aussi voté l'inscription de la protection des données personnelles dans cette même Constitution. L'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes pourrait en revanche attendre. Un sujet sensible, explique le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, des possibles tensions au sein même de la majorité. Alors il y aura bien un projet de loi comme annoncé, mais pas avant 2019. Aujourd'hui, le député La République En Marche, Guillaume Chiche, doit dire si oui ou non il dépose une proposition de loi pour accélérer ce processus. Quel visage pour l'audiovisuel public de demain ? Les arbitrages budgétaires seront rendus aujourd'hui, jeudi. La presse évoquait en début de semaine 400 millions d'euros d'économies, un chiffre donné par le rapport Cap 22. Mais un autre rapport, dirigé par un haut cadre britannique de la BBC, un autre document, a été remis au ministère de la Culture, Cécile de Kervas-Doué.
Le rapport d'étape de cette commission, remis mardi à la ministre, fait une quinzaine de pages et a été remis également hier au patron de l'audiovisuel public. Il donne le la d'une réforme qui va résolument vers le tout numérique. Une cinquantaine de personnalités spécialisées dans les transformations numériques des entreprises ont donc été auditionnées et l'exemple retenu pour l'audiovisuel public français est celui de la RTBF belge, qui a réduit ses effectifs de 30% et misé sur des plateformes web. Pour l'audiovisuel français, les experts prévoient donc de mettre en place une méthode de start-up avec laboratoire créatif, incubateur d'entreprise, jeunes pousses et comité exécutif BIS, donnant plus de place aux jeunes et à la diversité. Mais derrière cette méthode, il s'agit surtout de mettre l'accent sur les contenus plus que sur les flux. Comme le préconise aussi le rapport Cap 2022, il faut réduire le nombre de chaînes et les mutualiser parce que la diffusion hertzienne est de moins en moins pertinente et doit progressivement prendre fin. Le comité d'experts valide donc également la suppression de France 4, la chaîne jeunesse de la TNT dont la production de dessins animés, un secteur pourtant phare de l'industrie culturelle française, ne serait pas, nous dit le rapport, un enjeu majeur. Validé également la suppression de la chaîne ultramarine France O qui doit passer sur le numérique alors qu'un système d'engagement chiffré, de programmes et de personnalités ultramarines serait en parallèle imposé sur les chaînes nationales. Nul doute que cette question sensible risque d'être au cœur des discussions de ce matin entre la ministre de la Culture et celle des Outre-mer.
Le parquet de Nanterre évoque une sortie sur avis médical. La garde à vue du député et La République En Marche, Thierry Soler, a été levée hier soir. Il est soupçonné de fraude fiscale lorsqu'il était conseiller général des Hauts-de-Seine et qu'il travaillait en parallèle comme conseiller dans le privé. De nombreux locataires parisiens disent l'avoir remarqué. Les prix des locations se seraient envolés. Depuis l'annulation par la justice de l'encadrement des loyers, c'était en fin d'année dernière, il y a 6 mois. L'association de consommateurs CLCV rend un rapport en ce sens après avoir passé en revue 1 millier d'annonces. Et oui, plus d'un loyer sur deux dépasserait désormais l'ancienne limite fixée. Pour le DAL, l'association Droit au Logement, le pire est pourtant à venir avec la loi Élan votée à la rentrée. Son porte-parole Jean-Baptiste Hérault l'explique au micro de Marie Viennot.
La loi Élan prévoit aussi que les bailleurs qui font de la location touristique, qui sont aujourd'hui plafonnés à 4 mois, eh bien auront une alternative, pourront louer avec le bail mobilité, pourront louer pendant 8 mois, qui va avoir pour conséquence, si vous voulez, de faire augmenter les loyers partout. On imagine bien qu'un bailleur à Paris, il va préférer louer à des touristes au prix maximum non réglementé pendant 4 mois par session de 15 jours ou d'un mois, etc. Et entre-temps, louer avec le bail mobilité. Donc pour nous, on a sur la loi Élan une attaque frontale sur les loyers encore accessibles aux ménages classe moyenne. Donc ils vont être amenés à consacrer une part de plus en plus importante de leurs revenus pour se loger dans ce contexte aussi de baisse générale des APL.
Jean-Baptiste Hérault, porte-parole du DAL. Par ailleurs, l'Union nationale de la propriété immobilière répond de son côté. Il n'y a pas à ce jour, dit-elle, d'augmentation significative des prix des locations à Paris. Ce serait une perception des locataires dont le pouvoir d'achat baisse. Elle souhaite aussi préciser que les propriétaires subissent l'augmentation des taxes et de prestations.
Il est 8h09 sur France Culture. Le Parlement israélien a adopté ce matin un projet de loi qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif.
Ce texte controversé et adopté par 62 voix contre 55 stipule notamment que l'hébreu devient la seule langue officielle d'Israël. Auparavant, l'arabe avait un statut identique. Le projet déclare aussi que les implantations juives en Israël relèvent de l'intérêt national. Israël qui lutte toujours contre les cerfs-volants enflammés par les Palestiniens envoyés depuis la bande de Gaza ces derniers mois. Ils provoquent de graves incendies, notamment sur des terres agricoles. Et Marie Semelin, les prochains jours s'annoncent décisifs au vu de la tension qui monte.
Pour le gouvernement israélien, ces jours-ci sont cruciaux pour décider ou non d'une nouvelle opération militaire, autrement dit d'une guerre. Vertement critiquée par l'opposition et par une population exaspérée de ne pas voir ses cerfs-volants incendiaires pris au sérieux, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est saisi cette semaine de ce nouveau symbole de la mobilisation palestinienne et en a fait une affaire militaire. Il est aussi sous pression de l'extrême droite de sa coalition gouvernementale. D'après les médias israéliens, l'État hébreu aurait donné jusqu'à demain vendredi au mouvement islamiste du Hamas au pouvoir dans l'enclave pour faire cesser l'envoi de ses cerfs-volants. Ils se sont hier sensiblement réduits devant le moyen de pression choisi par Israël, le renforcement du blocus sur la bande de Gaza. Jusqu'à au moins dimanche, le fioul et le gaz n'entrent plus dans l'enclave. Les médicaments et la nourriture rentrent au cas par cas. L'objectif, c'est prendre Gaza à la gorge alors que la situation économique et sociale y est déjà désespérée. L'état-major israélien s'inquiète, lui, auprès du gouvernement d'une situation explosive, mais qui, de son point de vue, ne nécessite pas d'opération militaire. En sous-main, le médiateur égyptien et les Nations Unies œuvrent pour tenter d'arriver à un accord de cessez-le-feu et d'éviter un glissement vers un nouveau conflit.
Leur ville était encerclée depuis 3 ans par des rebelles syriens. 6 900 personnes ont pu être évacuées hier soir et ce matin, des civils et des combattants pro-régime. Une opération qui a eu lieu dans le cadre d'un accord passé entre la Russie, alliée du régime de Bachar el-Assad, et la Turquie, soutien de son côté des rebelles. La Turquie qui n'est plus sous état d'urgence depuis minuit cette nuit. Il a été levé comme l'avait promis Recep Tayyip Erdogan lors de la campagne présidentielle du mois dernier. Un état d'urgence qui durait depuis 2 ans et le putsch raté contre le pouvoir turc. Pouvoir qui annonce aussi la réintégration de plusieurs milliers de fonctionnaires à leur poste. Même si les personnes suspectées d'avoir été impliquées dans cette tentative de coup d'État il y a 2 ans sont encore jugées, même si aussi les purges continuent dans le pays. Et c'est peut-être suite à cette fin de l'état d'urgence que Donald Trump a demandé hier soir via un message sur Twitter la libération du pasteur américain Andrew Brunson, jugé pour terrorisme en Turquie. Un otage, écrit le président américain, qui demande donc à son homologue turc Erdogan d'œuvrer pour son retour aux États-Unis. 1500 réfugiés bientôt de retour en Grèce après être passés par l'Allemagne. Cela s'inscrit dans le cadre d'un regroupement familial, mais les Grecs ont bien du mal à comprendre pourquoi, Angélique Couronis.
Cet accord entre la Grèce et l'Allemagne a été scellé lors du sommet européen sur la question migratoire. Le ministre grec en charge du dossier peine à expliquer dans une conférence de presse les tenants et les aboutissants.
Ces personnes qui ont été enregistrées en Grèce seront renvoyées ici si elles sont prises à la frontière austro-allemande. Mais dans un même temps seront finalisés des regroupements familiaux pour lesquels l'Allemagne s'est déjà engagée.
Dimitris Vitsas a beau préciser dans sa conférence de presse que ces accords n'ont de raison d'être que dans l'attente d'une révision du système européen d'asile, l'opposition mais aussi une bonne partie des ONG qui œuvrent sur le terrain ont déjà dénoncé ce qui est présenté comme un marchandage sur le mode « vous prendrez bien un peu de dette contre des migrants ». Une grande majorité des Grecs ne comprennent pas cet accord alors que le pays peine toujours à accueillir décemment les 60 000 réfugiés déjà présents, dont 18 000 sont piégés dans les îles et qu'environ 100 à 200 continuent d'arriver quotidiennement. Alors reprendre ceux que l'Allemagne refuse fait un peu l'effet d'un dépôt-consigne. D'autant que l'Allemagne et l'ensemble des partenaires européens de la Grèce s'étaient, il y a 2 ans, engagés à relocaliser 160 000 réfugiés. Mais seuls 28% l'ont finalement été.
Et précision par ailleurs, au moins 19 personnes sont mortes hier. Une trentaine d'autres sont portées disparues en mer Méditerranée. Et cela après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de Chypre. Étrange ambiance au Nicaragua. Les opposants au président Daniel Ortega sont toujours poursuivis, quand dans le même temps aujourd'hui, le pays va célébrer le 39e anniversaire de la révolution sandiniste. Révolution qui mit fin à la dictature de Somoza à la fin des années 70 et qui porta justement Daniel Ortega au pouvoir. 39 ans après, que reste-t-il de cette révolution? C'est la question posée par Valérie Crova à Maya Colombo, enseignant-chercheur à Sciences Po Lyon.
Daniel Ortega a pratiquement défait presque toutes les différents aspects et dimensions de ce qu'était la révolution sandiniste. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Une des dernières choses qui faisait référence directement à la révolution sandiniste, c'était les programmes sociaux. Des programmes sociaux qui ont été assez importants dans le premier mandat du retour au pouvoir, donc à partir de 2007. Ils étaient importants parce qu'ils étaient financés par les pétrodollars d'Hugo Chavez. Le régime distribuait de l'argent, des toiles de zinc pour les toits, des programmes alimentaires, enfin différents types de programmes sociaux. Sinon, d'un point de vue économique, le Nicaragua a fait des réformes macroéconomiques qui sont tout à fait dans la continuité de ce qu'étaient les régimes libéraux qui l'ont précédé. Si vous voulez, en l'espace de 11 ans, le régime Ortega s'est attaché à contrôler la majeure partie des ressources de l'État, qu'elles soient financières, politiques ou sociales.
L'enseignante Maya Colombo avec Valérie Crova. Les manifestations ces trois derniers mois au Nicaragua ont fait plus de 280 morts. Les températures grimpent ce jeudi en France sous un grand soleil avant l'arrivée de l'orage par l'Atlantique Sud cet après-midi. Comptez donc par exemple 23 degrés ce matin à Rennes, 24 à Lille, déjà 26 à Paris, Besançon et à Bordeaux, 27 degrés à Lyon, Périgueux, 30 degrés en bord de Méditerranée ce matin et jusqu'à 36 degrés cet après-midi sur le Festival d'Avignon.